fait.
C'est un autre qui a posé sa tête, hein.
Live.
Avec Dominique Morin.
En blazer.
Radio. X.
Madame, messieurs, le voici, Étienne Alexandre Beauregard. Salut, comment ça va? Étienne Alexandre Beauregard, vous êtes salué. Il n'est pas là, on ne l'entend pas.
Il n'est pas en ligne non plus.
Il n'est même pas en ligne. Il est out, il est parti. Il est dans le firmament.
Il a raccroché.
OK, donc on le rappelle, tout simplement. Voilà. Je fais une entrevue après l'émission, puis on va vous présenter 3-4 extraits de ça demain. Un prof de business et d'économie de l'Université Carleton qui n'est pas Elbows Up et qui est contre Elbows Up. D'après moi, puis je l'ai pogné à CBC en fin de semaine, c'est le plus anti-Elbows Up des commentateurs qu'on puisse connaître, parce qu'ils sont très, très Elbows Up au Canada anglais. Puis je vais faire une entrevue avec lui, puis je vais vous passer 2-3 extraits. Vous allez voir, c'est fort rafraîchissant, mais en même temps, vous ne serez peut-être pas d'accord avec. Oh, à ce moment-là, vous mettrez un casque d'aluminium avec une couverte sur la tête. Comment ça va, Étienne Alexandre?
Ça va très bien, toi-même.
Très bien. Polo polaire, l'ours polaire. Paul a parlé. On a peur de Trump, je vous comprends. Quand Trump va être parti, là, on ouvrira la fenêtre. Qu'est-ce que t'en penses de la stratégie?
D'abord, c'était un peu prévisible. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, Dominique, quand le PQ a gagné la partielle dans Chicoutimi, il avait déjà dit quelque chose un petit peu comme ça dans son discours de victoire, en disant « Ouais, au port, les gens nous disent que le référendum, ils n'aiment pas trop ça avec Trump et tout. On n'est pas irresponsable. » Fait que c'est quelque chose qui a un peu laissé planer. Là. Puis aujourd'hui, je pense, avant la campagne, il veut marquer le coup. Puis on l'a vu là, déjà, le petit teaser en bon chinois qu'il nous a fait hier. Il voulait dire que ça va être une annonce majeure que tout le monde devrait couvrir. Là. Il dit qu'il va faire des entrevues toute la journée et tout pour rassurer les gens. Là. Fait que, d'une certaine manière, M. Plamondon, il est un peu pris. Là. Je comprends ton qualificatif de bipolaire. De dire que
J'ai jamais dit bipolaire, mais j'aime ça, mais j'ai jamais dit ça. Non, je reprends la blague, les chansons d'Arthur l'Aventurier. Ours polaire, populaire, polo polaire. Mais effectivement, il est un peu bipolaire. T'as tout à fait raison. Bravo.
Non, mais tu sais, c'est de dire que d'un côté, c'est la pièce maîtresse de sa campagne, de dire, moi, c'est le référendum, je suis clair là-dessus, oui. C'est notre destinée, blablabla. Puis là, de l'autre côté, ouais, mais vous savez, on n'est pas fous, on va pas faire de référendum trop vite. Fait que là, c'est comme de dire, je vais le faire dans un premier mandat, mais je vais un petit peu le faire à la fin du premier mandat, puis si Trump n'est plus là, puis tout. Fait que je pense que il pensait clarifier des choses, mais il reste encore un peu d'ambiguïté.
Mais hein, qu'il reste l'ambiguïté. C'est une stratégie elbows up. Donc, les boomers, je vous comprends, vous avez peur. Elbows up, il faut se tenir. Donc, on va être un gouvernement qui va se tenir contre les Américains. Mais, question, avec un S, plusieurs questions. Si c'est J.D. Vance, c'est Trump 2.0, on fait quoi? Puis c'est Kamala Harris ou un autre, les démocrates sont tout aussi, sinon plus protectionnistes que les républicains en la matière. Donc, on fait quoi? Ah, ce Kamala est protectionniste, mais on y va avec ça. Vous n'avez pas peur d'elle. Il est où le raisonnement? C'est une stratégie purement elbows up, purement émotive. Et c'est pour rassurer les boomers qui votent, dont le vote est partagé en passant, entre la CAQ et le PQ. C'est ça l'histoire.
D'ailleurs, je ne sais pas si... En fait, je pense que M. Plamondon, il voit les mêmes sondages que nous. Là. C'est-à-dire qu'une partie de la chute du PQ, qui a passé d'autour de 35, même des fois 38, à 30, c'est parce que, justement, chez les boomers, il a commencé à en perdre. Le PQ est très, très fort chez les travailleurs. Là. Mettons les 35-54. D'ailleurs, un électorat qui se partage pas mal avec le PCQ. C'est des gens qui sont réformistes, qui veulent du changement, etc., qui n'ont pas la même crainte, je pense, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Mais là, ils voient qu'ils perdent un peu chez les boomers, qu'on pensait pourtant acquis au PQ, parce qu'ils ont grandi avec ce parti-là, etc. Fait que là, c'est sûr que c'est une manière de contrôler les meubles, parce qu'il ne veut pas avoir les mains liées et a été élu minoritaire pendant un an et demi. Là. Dans le fond, c'est ça qu'il fait aujourd'hui.
C'est ça. C'est un appel à une majorité, parce que lui dit, au fond, si vous voulez un référendum, donnez-moi un 4 ans. On split la tarte en deux. Dans 2 ans, jaune-orange s'en va. Et ensuite, les 2 autres années, ça va être une gouvernance séparatiste, souverainiste. Donc, c'est un 2 pour 1. Donnez-moi une majorité, je vous donne un 2 pour 1. C'est-à-dire, gestion du gouvernement première les deux premières années, en attendant que Trump fasse ses boîtes. Puis quand Trump est parti, tel que je vous ai promis, je bâtis un référendum. Donc, c'est deux styles de gouvernance en un mandat.
Ouais, mais est-ce que tu penses, toi, dans les deux dernières années d'un mandat, quand le gouvernement a épuisé son capital de sympathie, tout ça,
ben
c'est le bon moment pour faire ça?
Ben non. Et l'autre chose, est-ce que tu penses vraiment que dans les deux premières, ils travailleront pas pour rassembler les blocs légaux pour ne pas bâtir une campagne référendaire? Voyons donc. Tu sais, des deux premières, tu sais, ils vont être en attente. Ça va être un gouvernement référendaire en attente. Trump est là, mais on y va pas avec un référendum. On prépare. Donc, ça peut être une commission Bélanger-Campo. Ça peut être une commission sur la monnaie québécoise. Ça peut... Tu comprends? On va pouvoir bâtir quand même un univers référendaire. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus?
Ben, tu vois, moi, j'ai pas de misère avec ça. Je pense que tout ce qu'on fait...
Non, je me dis que j'en avais. Mais ça va-tu arriver, c'est ça ma question?
Ben, écoute, moi, j'espère qu'ils vont pas s'asseoir sur leurs mains s'ils font pas de référendum, qu'ils vont rien faire pour accroître l'autonomie du Québec puis le pouvoir qu'on a même à l'intérieur du Canada. Là. Je veux dire, si c'est ça, ça va être bon. Mais tu vois, je vais me permettre quand même cette petite boutade-là que je dis avec un sourire en coin. Quand je parlais avec mes amis péquistes, quand je travaillais encore pour M. Legault, eux, c'était beaucoup « Ah ben là, vous faites pas de référendum, blablabla, vous devriez, etc. » Puis je dis « Ouais, mais regardez les chiffres, les amis, là. Vous ramassez à devoir suivre les sondages parce que vous êtes pas fou, vous voulez être élu, et vous voyez que les gens veulent pas de référendum, mais vous allez vous ramasser à faire du caquisme vous-même. Et est-ce que c'est ça qu'ils vont être pris pour faire? Est-ce qu'ils vont faire du caquisme eux autres aussi après l'avoir raillé pendant 8 ans parce qu'ils vont regarder un sondage puis ils vont dire, ben là, on peut quand même pas faire de référendum? Non, mais c'est vrai pareil.
CAQ, c'est PQ 2.0. Est-ce à dire que le PQ, c'est la CAQ 2.0?
Ben, écoute, d'abord, c'est les mêmes électeurs.
Oui. Non, mais est-ce que c'est ça ce à quoi on va assister?
Ben, l'affaire, c'est qu'ils vont peut-être être forcés de faire ça. C'est de la même manière que M. Legault, à la base, c'est un souverainiste qui a dit, bon, mais regardez, les Québécois, ils n'en veulent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accroître les pouvoirs du Québec dans les circonstances actuelles avec ce que les Québécois nous permettent de faire? À un moment donné, ces données fondamentales-là, elles n'ont pas changé. Fait que, c'est, d'une certaine manière, on peut dire, oui, on va tirer sur la fleur pour qu'elle pousse, mais à un moment donné, on reste dans une démocratie. Tu peux pas faire plus que ce que les électeurs te permettent de faire. Fait qu'il y a aussi ce problème-là qui est structurel. Tu sais, d'un côté, on dit souvent, ouais, là, les autonomistes, hein, ils ont vu la limite du Canada, il y a eu des refus, etc. Mais est-ce qu'on a vu aussi des refus des Québécois qui disent, on veut pas aller là? Tu sais, la politique, c'est toujours l'art du possible. Hein?
Est-ce que dans cet art du possible, Fréchette, ça pogne? Ah, je vais enlever le Lifesaver, je vais arrêter de parler de logo, je vais mettre une bulle comme logo, donc c'est la nouvelle emblème du parti. Équipe Fréchette, t'as pognes-tu? L'espèce de nouvelle boîte avec le même savon, là?
Ouais, ben je sais pas, hein, parce qu'on voit, en fait, la dernière force de l'équipe Christine Fréchette, parce qu'on peut plus dire la CAQ, comme tu dis, c'est chez les boomers. Hein? On voit, moi, ça m'a fait capoter quand j'ai vu le sondage, je pense que c'est le Palace, là, où le parti est à 19, mais chez les 55 plus, est à 32. C'est un écart énorme. Là. On voit rarement ça. Et c'est un peu leur bruit de sauvetage, effectivement. Après, si le PQ réussit à aller regruger ces électeurs-là, qui sont, je pense, des nationalistes qui ne veulent rien savoir du Parti libéral, sinon ils y seraient déjà, bien là, c'est avec eux qu'il va la faire, sa majorité, de fait. Là.
OK. Pour le reste, le rapport... Dernière question, rapport de la VG hier... constat somme toute assez brutal. Le gouvernement qui sera élu ne pourra pas s'amuser. On tombe dans l'air, évidemment. Il y aura les pleurnichards qui vont venir vous dire « L'austérité, l'austérité! » Non, c'est juste de gérer ça comme bon père de famille, comme dit l'expression, parce qu'on ne peut plus dépenser en malade, comme le fait la CAQ, soit dit en passant. Compression obligée de 5 milliards des deux premières années, tandis quoi?
Mais j'en dis que probablement qu'on est rendu là. Puis moi, il n'y a rien d'alarmant de ce que j'ai vu dans le rapport. Tu sais, il y a eu évidemment la teinte de certains médias quand ils l'ont repris en disant « Ah, là, ce qu'il va falloir, c'est un coup de frein comme on n'en a pas vu depuis 2015-2016 avec Martin Coiteux et Carlos Letao. C'est l'austérité, vous savez. » Puis Radio-Canada dit même hey, « les gens avaient fait une chaîne humaine autour de l'Assemblée nationale. » Tu sais, ça prend quand même du bagou pour présenter ça comme ça. Mais tu sais, est-ce que c'est mauvais, Dominique, un coup de frein? Est-ce qu'on est rendu là? Moi, je pense que oui.
Un gros coup de frein que ça prend.
Ben, j'espère. Parce que quand tu vois que les dépenses ont augmenté de 56% dans les principaux ministères en 8 ans, ben, à un moment donné, on ne peut pas continuer avec ce rythme-là. Là. Il y a des moments où il faut mettre un coup de frein. Oui. Parce que sinon, ben, on s'en va dans le mur.
Absolument. Merci beaucoup. EA Sports. Merci beaucoup, Étienne-Alexandre. Ciao.
Merci à toi. Salut.
9h09, Raider Sports.
Morais.
Live.
Un break, une pause. On revient dans pas long.
Radio.